Rachel. Dimanche 21 juillet 2013. Matin. Je me réveille la tête emplie de lui. Ça n'a pas l'air vrai. Rien ne me semble réel. J'ai la peau qui picote. J'aimerais tellement boire un verre, mais je ne peux pas. Il faut que je garde les idées claires, pour Megan, pour Scott. Hier, j'ai fait un effort. Je me suis lavé les cheveux et maquillée. J'ai porté le seul jean qui me va encore, une tunique en coton imprimé et des sandales à petits talons. Ce n'était pas trop mal. Je n'arrêtais pas de me répéter que c'était ridicule de me soucier de ça. Parce que la dernière chose qui devait intéresser Scott, c'était mon apparence. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était la première fois que j'allais le rencontrer. C'était important pour moi. Plus que ça n'aurait dû. J'ai pris le train qui partait d'Ashbury vers 18h30 et je suis arrivée à Whitney peu après 19h. J'ai fait mon trajet habituel le long de Rosebery Avenue et à côté du passage souterrain. Mais cette fois, je n'ai pas levé les yeux. Je n'ai pas pu. J'ai pressé le pas au niveau du numéro 23, la maison de Tom et Anna. Menton baissé et lunettes de soleil sur le nez, en priant pour qu'il ne me voie pas. Dehors, c'était calme. Il n'y avait personne. Juste quelques voitures qui roulaient lentement entre les rangées de véhicules garés des deux côtés. C'est une petite rue tranquille, ordonnée, où vivent beaucoup de jeunes familles. Vers 19h, ils doivent tous être à table ou installés sur le canapé, les tout-petits calés entre papa et maman à regarder X-Factor. Entre le numéro 23 et le numéro 15, il ne doit pas y avoir plus d'une cinquantaine ou soixantaine de pas. Mais ce trajet s'est étiré et m'a semblé durer une éternité. J'avais les jambes lourdes et le pas hésitant comme si j'étais ivre, comme si je risquais de trébucher sur le trottoir. Scott a ouvert la porte presque avant que j'aie fini de frapper, et j'avais une main tremblante encore en l'air lorsque je l'ai vu apparaître dans l'encadrement de la porte, dressée au-dessus de moi, emplissant tout l'espace. « Rachel ?» a-t-il dit sans sourire, la tête baissée pour m'observer. J'ai acquiescé. Il m'a tendu une main que j'ai serrée, puis il m'a fait signe d'entrer, mais l'espace d'un instant, je n'ai pas réagi. Il me faisait peur. De près, il est impressionnant physiquement. Grand, les épaules larges, les bras et le torse bien dessinés. Il a des mains immenses. J'ai songé soudain qu'il pourrait me broyer la nuque, les côtes, sans beaucoup d'efforts. Je suis passée devant lui pour aller dans l'entrée. Mon bras a effleuré le sien et j'ai senti le rouge me monter aux joues. Il sentait la transpiration aigre et ses cheveux bruns étaient emmêlés sur son crâne comme s'il ne s'était pas douché depuis plusieurs jours. C'est en arrivant dans le salon que la sensation de déjà-vu m'a frappée, si violemment que c'en était presque effrayant. Je reconnaissais la cheminée flanquée d'alcôves sur le mur du fond, la manière dont la lumière entrait depuis la rue par les raies des stores vénitiens. Je savais que, si je me tournais vers la gauche, je verrais une vitre, du verre, puis, au fond, la voie de chemin de fer. Je me suis retournée et, oui, la table de la cuisine, les portes-fenêtres derrière et, dehors, une pelouse luxuriante. Je connaissais cette maison. J'avais la tête qui tournait et je voulais m'asseoir. J'ai repensé à ce trou noir samedi, à toutes ces heures perdues. Cela ne voulait rien dire, évidemment. Je connais cette maison, mais pas parce que j'y suis déjà venue. Je la connais parce que c'est exactement la même que le numéro 23. Dans l'entrée, un escalier qui mène à l'étage, et sur la droite, on trouve le salon qui se fond dans la cuisine. La terrasse et le jardin me sont familiers car je les ai vus depuis le train. Je ne suis pas montée au premier, mais je sais que si je l'avais fait, je serais arrivée sur un palier avec une grande fenêtre à guillotine. Si on passe par cette fenêtre, on accède au balcon improvisé sur le toit de la cuisine. Je sais qu'il y aurait eu deux chambres, la chambre principale avec deux grandes fenêtres qui donnent sur la rue et une chambre plus petite au fond, au-dessus du jardin. Mais le fait de connaître cette maison sur le bout des doigts ne signifie pas pour autant que j'y sois déjà entrée. Cependant, je tremblais tout de même quand Scott m'a emmenée dans la cuisine. Il m'a proposé du thé. Je me suis assise à table, en face des porte-fenêtres, et je l'ai regardé faire bouillir de l'eau, lâcher un sachet de thé dans une tasse et renverser de l'eau sur le plan de travail en marmonnant dans sa barbe. Il régnait une forte odeur de désinfectant dans la pièce, mais Scott lui-même était dans un sale état. Une tache de sueur s'étalait dans le dos de son t-shirt. Son jean flottait sur ses hanches, comme s'il était trop grand pour lui. Je me suis demandé depuis quand il n'avait pas mangé. Il m'a apporté ma tasse, puis il est allé s'asseoir de l'autre côté de la table, en face de moi, les mains croisées devant lui. Le silence a duré un bon moment. Lourd dans l'espace qui nous séparait, dans la pièce entière. Il résonnait dans mes oreilles. J'ai commencé à avoir trop chaud, à me sentir mal à l'aise. Et je ne pensais plus à rien. Je ne savais pas ce que j'étais venue faire là. Mais pourquoi étais-je venue? Au loin, j'ai entendu un grondement sourd, un train qui arrivait. C'était rassurant, ce bruit familier. « Vous êtes une amie de Meghan ?» a-t-il fini par dire. Entendre ce nom franchir ses lèvres m'a mis une boule dans la gorge. J'ai gardé les yeux fixés sur la table, les doigts enroulés autour de ma tasse. « Oui, je la connais un peu, de l'époque où elle tenait la galerie. » Il m'observait dans l'attente, plein d'espoir. J'ai vu le muscle de sa mâchoire se contracter quand il a serré les dents. J'ai cherché des mots qui ne venaient pas, j'aurais dû mieux me préparer. « Vous avez eu du nouveau ?» ai-je demandé. Il a soutenu mon regard, et pendant une seconde, j'ai eu peur. J'avais dit ce qu'il ne fallait pas. Ça n'était pas mes affaires de savoir s'il y avait du nouveau. Il allait se fâcher et me demander de partir. « Non, » a-t-il répondu. « Qu'est-ce que vous vouliez me dire ?» Le train est passé lentement au fond du jardin et j'ai tourné la tête en direction des rails. Je me sentais étourdie, comme si j'étais hors de mon corps et que je pouvais me voir agir. « Vous avez dit dans votre message que vous vouliez me dire quelque chose au sujet de Meghan. » Sa voix était devenue un cran plus aiguë. J'ai pris une grande inspiration. J'étais terriblement mal. J'avais conscience que ce que j'allais expliquer risquait de tout empirer et que cela lui ferait du mal. Je l'ai vu avec quelqu'un. C'est sorti tout seul, abruptement, fort, sans préparation et sans contexte. Il m'a dévisagé. Quand ? Vous l'avez vu samedi soir ? Vous en avez parlé à la police ? Non, c'était vendredi matin, ai-je dit. Ses épaules se sont affaissées. Mais elle allait bien, vendredi. Pourquoi est-ce important ? Le muscle de sa mâchoire s'est contracté à nouveau. Il s'énervait. Vous l'avez vu avec... Vous l'avez vu avec qui ? Un homme ? Oui, je... À quoi il ressemblait ? Il s'est levé et son corps m'a bloqué la lumière. « Vous en avez parlé à la police ? » a-t-il redemandé. « Oui, mais je ne crois pas qu'on m'ait prise très au sérieux. Pourquoi ? » « C'est juste... Je ne sais pas. Je pensais juste que vous devriez être au courant. » Il s'est penché en avant, les mains sur la table, les poings serrés. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous l'avez vue où ? Et qu'est-ce qu'elle faisait ?» J'ai pris une autre inspiration. Elle était dehors, dans le jardin, juste là. J'ai désigné la pelouse. Elle, je l'ai vue depuis le train. Impossible d'ignorer l'expression d'incrédulité sur son visage. Je prends le train pour Londres depuis Ashbury tous les matins. Je passe toujours ici. Je l'ai vue, et elle était avec quelqu'un. Et ce n'était pas vous. Et comment vous savez ça ? Vendredi matin. Vendredi, la veille de sa disparition. Oui. Je n'étais pas là. J'étais en déplacement, à une conférence à Birmingham. Et je suis rentré vendredi soir. Un peu de couleur est alors apparue tout en haut de ses joues. Son scepticisme laissait place à autre chose. Alors vous l'avez vue dans le jardin, avec quelqu'un. Et elle l'a embrassé, ai-je dit. Il fallait bien que ça finisse par sortir. Il fallait que je lui dise. Il s'embrassait. Il s'est redressé, les poings serrés le long de son corps tendu. Les taches de couleur sur ses joues se sont accentuées, trahissant sa colère. « Je suis désolée, » ai-je ajouté. « Je suis vraiment désolée. Je sais que c'est affreux à entendre. » Il a levé une main pour me faire signe d'arrêter, méprisant, Ma compassion ne l'intéressait pas. Je sais ce que ça fait. Assise là, je me souviens presque parfaitement de ce que j'ai ressenti à ce moment, assise dans ma propre cuisine à 4 maisons d'ici, avec Lara, mon ancienne meilleure amie, installée en face de moi avec son nourrisson potelé qui se tortillait sur ses genoux. Je me souviens quand elle m'a dit combien elle était désolée que mon mariage s'écroule et quand j'ai perdu mon sang-froid devant ses platitudes. Elle ne comprenait rien à ma souffrance. Je lui ai dit d'aller se faire foutre et elle m'a dit de ne pas parler ainsi devant son enfant. Je ne l'ai pas revu depuis ce jour-là. « À quoi ressemblait-il, cet homme que vous avez vu ?» a demandé Scott. Il me tournait le dos à présent. Il regardait dans le jardin. Il était grand. Plus grand que vous, peut-être. La peau plus sombre. Je crois qu'il est peut-être asiatique, indien, quelque chose comme ça. Et ils s'embrassaient, là, sur la pelouse? Oui. Il a poussé un long soupir. Bon sang, j'ai besoin d'un verre. Il s'est tourné vers moi. Vous voulez une bière? Oui, je mourais d'envie de boire, mais j'ai refusé. Je l'ai regardé prendre une bouteille dans le frigo, l'ouvrir, et prendre une longue gorgée. Je pouvais presque sentir le liquide frais couler dans ma gorge. J'avais la main douloureuse tant j'avais envie de tenir un verre. Scott s'est appuyé contre le plan de travail, la tête baissée presque jusqu'à toucher son torse. J'étais au plus mal. Je ne l'avais pas aidé. J'avais simplement aggravé son état et sa douleur. Je m'immisçais dans sa peine et j'avais tort. Je n'aurais jamais dû aller le voir. Je n'aurais jamais dû mentir. Évidemment que je n'aurais jamais dû mentir. Je m'apprêtais à me lever quand il a repris la parole. Peut-être... Je sais pas. Ça pourrait être une bonne chose, non? Ça pourrait vouloir dire qu'elle va bien, qu'elle s'est juste... Il a eu un petit rire sans joie. Qu'elle s'est juste enfuie avec quelqu'un. Du dos de la main, il a essuyé une larme qui coulait sur sa joue, et mon cœur s'est serré très fort. Mais le truc, c'est que je n'arrive pas à croire qu'elle ne m'aurait pas appelé. Il me fixait comme si je possédais toutes les réponses, comme si je pouvais savoir. Elle m'appellerait, non? Elle devrait se douter de mon état de panique, de désespoir. Ce n'est pas elle d'être aussi rancunière, si. Il me parlait comme à quelqu'un à qui il pouvait faire confiance, comme à l'ami de Meghan. Et je savais que ce n'était pas bien, mais ça me faisait plaisir. Il a repris une gorgée de bière et s'est retourné vers le jardin. J'ai suivi son regard jusqu'à une petite pile de pierres appuyée contre le grillage, un début de jardin de rocaille abandonné depuis longtemps. Il a levé la bouteille à mi-hauteur de sa bouche avant d'interrompre son geste. Il s'est tourné vers moi. « Vous avez vu Meghan depuis le train ?» a-t-il demandé. « Alors vous avez juste jeté un œil par la fenêtre et, comme par hasard, elle était là, cette femme que vous connaissez. » L'atmosphère dans la pièce a changé. Il n'était plus très sûr de savoir si j'étais une alliée, s'il pouvait se fier à moi. Une ombre de doute a traversé son visage. « Oui, je sais où elle habite, » ai-je dit. Et j'ai regretté ces mots dès l'instant où ils ont quitté mes lèvres. « Où vous habitez, je veux dire. Je suis déjà venue, il y a longtemps. Alors parfois, en passant, je regarde si je la vois. » Il me dévisageait et j'ai senti le rouge me monter aux joues. « Elle était souvent dehors. » Il a posé sa bouteille vide sur le plan de travail, puis il a fait quelques pas vers moi et s'est assis à la table, sur la chaise à côté de la mienne. « Alors, vous la connaissiez plutôt bien ? Enfin, assez bien pour venir à la maison. » Je sentais le sang cogner dans mes tempes et la transpiration s'accumuler dans le bas de mon dos, la nausée grisante de l'adrénaline. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû compliquer encore mon histoire. Juste une fois. Mais je sais où se trouve la maison parce que je ne vivais pas très loin d'ici avant. Il a levé un sourcil. Au bout de la rue, au 23. Il a acquiescé lentement. Watson. Alors quoi, vous êtes l'ex-femme de Tom? Oui, j'ai déménagé il y a 2 ans. Mais vous alliez quand même voir Meghan à la galerie, De temps en temps. Et quand vous la voyez, est-ce qu'elle vous parlait de choses personnelles, de moi? Il avait la voix rauque. Ou de quelqu'un d'autre? J'ai secoué la tête. Non, non, c'était simplement histoire de passer le temps, vous savez. Il y a eu un long silence. La pièce m'a semblé se réchauffer brusquement, et l'odeur de désinfectant a surgi de tous côtés. Je me suis soudain sentie faible. À ma droite se dressait une petite table où étaient posées des photos dans des cadres. Meghan souriait gaiement, comme pour m'accuser. « Je devrais y aller, » ai-je dit. « Je vous ai suffisamment dérangé. » J'ai commencé à me lever, mais il a tendu un bras pour m'attraper par le poignet, ses yeux rivés sur mon visage. « Ne partez pas tout de suite, » a-t-il soufflé. Je ne me suis pas levée, mais j'ai retiré ma main de la sienne. Ça me donnait la sensation inconfortable d'être prisonnière. « Cet homme, » a-t-il repris, « l'homme avec qui vous l'avez vu. Vous pensez pouvoir le reconnaître, si on vous le montrait ?» Je ne pouvais pas lui répondre que je l'avais déjà identifié pour le compte de la police. La seule raison que j'avais de l'avoir contacté, c'était que la police n'était pas censée avoir pris mon histoire au sérieux. Si je lui avouais la vérité, sa confiance s'évanouirait. Alors j'ai encore menti. Je n'en suis pas sûre, mais peut-être, oui. J'ai attendu un instant avant de poursuivre. Dans les journaux, j'ai lu une interview d'un ami de Meghan, un certain Rajesh. Je me demandais si... Scott secouait déjà la tête. Rajesh Gujral ? Ça m'étonnerait. C'est un des artistes qui exposait à la galerie. C'est un type plutôt gentil, mais il est marié, il a des enfants. Comme si ça empêchait quoi que ce soit. Attendez une seconde, a-t-il dit en se relevant. Je crois qu'on a une photo de lui quelque part. Il a disparu à l'étage. Mes épaules se sont affaissées et je me suis rendu compte que, depuis mon arrivée, j'étais figée par le stress. J'ai à nouveau regardé les cadres avec leurs clichés. Meghan en robe d'été sur une plage, un gros plan sur son visage, ses yeux d'un bleu profond. Rien que Meghan, pas de photo d'eux ensemble. Scott est réapparu et m'a montré un dépliant. C'était un prospectus pour une exposition à la galerie. Il l'a retourné. Là, c'est Rajesh. Un homme se tenait près d'une peinture abstraite aux couleurs vives. Il était plus âgé, petit et trapu avec une barbe. Ce n'était pas l'homme que j'avais vu, celui que j'avais désigné à la police. Ce n'est pas lui, ai-je dit. Scott était debout à côté de moi, étudiant le papier, puis il s'est retourné brusquement pour ressortir de la pièce et remonter l'escalier. Quelques instants plus tard, il est revenu avec son ordinateur portable et s'est rassis à la table de la cuisine. « Je crois, » a-t-il commencé en ouvrant la machine pour l'allumer, « je crois que je peux... » Puis il est resté silencieux. Et je l'ai observé, le visage très concentré, le muscle de sa mâchoire crispée. « Meghan voyait un psy », m'a-t-il expliqué. « Il s'appelle Abdik, Kamal Abdik. Il n'est pas asiatique, il vient de Serbie ou de Bosnie, quelque chose comme ça, mais il a la peau mate. De loin, il pourrait passer pour un Indien. » Il a tapoté sur son clavier. « Il y a un site, il me semble, j'en suis sûr. Je crois qu'on y voit une photo. » Il a tourné l'ordinateur vers moi pour me montrer l'écran. Je me suis penchée pour mieux voir. « C'est lui !» ai-je confirmé. « C'est lui, c'est certain !» Scott a refermé son portable d'un coup sec. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Il est resté assis, les coudes sur la table, le front appuyé sur le bout de ses doigts, les bras tremblants. « Elle avait des crises d'angoisse, » a-t-il fini par dire. « Du mal à dormir, ce genre de choses. Ça a commencé l'an dernier, je ne sais plus quand exactement. » Il parlait sans me regarder, comme s'il se parlait à lui-même, comme s'il avait complètement oublié ma présence. C'est moi qui lui ai suggéré de consulter. Je l'ai encouragé à y aller parce que je n'arrivais pas à l'aider. Sa voix s'est fêlée. Je ne pouvais pas l'aider. et elle m'a dit qu'elle avait déjà eu ce type de problème par le passé et qu'il finirait par s'en aller d'eux-mêmes, mais je l'ai convaincue d'aller voir un médecin. On lui a recommandé ce type. Il a tout sauté pour s'éclaircir la gorge. La thérapie avait l'air de lui faire du bien. Elle était plus heureuse. Il a eu un petit rire triste. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. J'ai tendu une main pour lui tapoter le bras. Un geste de réconfort, mais il s'est écarté brusquement et s'est levé. « Vous devriez y aller », a-t-il repris. « Ma mère ne va pas tarder à revenir. Elle n'arrive pas à me laisser seule plus d'une heure ou deux. » À la porte, alors que je m'apprêtais à sortir, il m'a attrapé le bras. « Je vous ai déjà vu quelque part ?» Un instant, j'ai songé que je pourrais lui répondre « Peut-être, oui. Vous m'avez peut-être vu au poste de police, ou là, dans la rue. J'étais là samedi soir. » J'ai secoué la tête. « Non, je ne pense pas. » J'ai marché vers la gare aussi vite que possible. À la moitié du chemin environ, je me suis retournée pour regarder en arrière. Il était toujours là sur le pas de la porte, à m'observer.